On poursuit les qui sont en ligne. Donc aujourd'hui, on poursuit les conférences du cycle des amphis du savoir qui sont organisées donc par l'Espace Mendès France avec l'UFR de sciences fondamentales et appliquées de l'Université de Poitiers. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais on a le principe d'avoir deux conférences simultanées. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Lisa Poncet, donc qui est doctorante au laboratoire ETHOS à l'Université de Caen, Normandie, et qui va nous faire une présentation sur que se passe-t-il dans la tête d'un céphalopode. Donc on va tout savoir à la fin des poulpes et des seiches et de leurs aptitudes. Et donc, si par ailleurs vous êtes intéressé par les précédentes ou les suivantes conférences de ce cycle de conférences, il y en a une partie qui sont sur la chaîne YouTube de l'Espace Mendès France et l'autre sur la chaîne YouTube de l'Université de Poitiers. Voilà, donc je vous souhaite une bonne conférence et puis après nous pourrons échanger pendant une demi-heure avec Lisa Poncet. Merci.
Merci. Donc bonjour à tous. Je vais commencer par une petite présentation. Donc Héloïse vous disait, je m'appelle Lisa Poncet, donc je suis doctorante en troisième année. Souvent, les gens ne savent pas exactement ce que ça veut dire doctorante. En fait, c'est un statut qui est à la fois étudiant et chercheur. Je suis étudiante parce que je suis inscrite dans une université, j'ai encore quelques cours, mais mon boulot principal, je suis payée pour ça, c'est d'être chercheuse. Donc, je vais travailler principalement dans la recherche. Comme d'autres chercheurs, on va essayer de découvrir des nouvelles choses. Moi, dans mon domaine, c'est biologie marine sur les céphalopodes. Je fais partie du laboratoire ETHOS et mes recherches sont financées par des organismes publics, notamment donc l'ANR, qui est au niveau du ministère des financements de l'Agence nationale de la recherche. Durant mes études, j'ai eu un parcours très, très varié. Je ne suis pas du tout biologiste marine à l'origine. Moi, je suis éthologue, donc ça veut dire que j'ai un parcours où j'ai étudié le comportement des animaux. Et pour ça, j'ai fait une licence de biologie assez classique. Et après, je me suis orientée vers un master en écophysiologie, écologie et éthologie, un peu long, mais principalement donc axé sur le comportement animal. Et durant mes stages, j'ai pu vraiment étudier plein d'animaux différents, comme vous pouvez voir, des chiens, des crapauds, des élans. C'était très, très varié. Et pour ma thèse, je me suis orientée vers les céphalopodes. Donc, ces animaux-là, vraiment différents, mais en fait, même si c'est moins mignon qu'un chien, c'est tout aussi passionnant. Donc, je travaille sur deux céphalopodes en particulier, la seiche commune et le poulpe commun, qu'on appelle aussi pieuvre. Moi, je vais utiliser poulpe dans ma présentation, mais c'est vraiment exactement la même chose. C'est deux espèces qu'on retrouve sur les côtes françaises, qui sont très communes, et qu'on va retrouver même un peu partout dans le monde. Donc, on va commencer un petit peu par de la biologie et de l'anatomie. Parce que c'est des animaux qui sont vraiment uniques, très très particuliers, et ça vaut le coup de s'arrêter un moment sur toutes leurs caractéristiques. Première chose, ils ont 8 bras, c'est assez connu, couverts de ventouses. C'est des ventouses vraiment très, très résistantes, très efficaces, et de plus qui leur permettent de goûter. Ils goûtent avec leurs ventouses et touchent leur environnement. C'est vraiment une façon particulière d'explorer l'environnement, notamment pour le poulpe, qui va donc découvrir son environnement avec ses bras et moins avec sa vue. Chez la seiche, petite particularité que le poulpe n'a pas, c'est ces nageoires qui vont être tout autour du corps, qui vont lui permettre de se déplacer. Et aussi, en plus de ses 8 bras, elle va avoir 2 tentacules. C'est ces deux appendices qu'elle projette pour attraper des proies. Notamment, là, je vais vous montrer une petite vidéo où la seiche va attraper une crevette en projetant ses tentacules. C'est très rapide et très efficace. Vous voyez la vitesse à laquelle elle sort et la longueur aussi des tentacules, qui lui permettent vraiment de saisir une proie qui est quasiment à une longueur de corde d'elle-même. Ensuite, c'est des animaux qui, pour se déplacer, comme je disais, ils ont nageoires ou bras, ils ont également un siphon. En fait, c'est un organe qui leur permet d'évacuer l'eau qu'ils font rentrer dans leur corps. Cette eau leur sert à respirer. Et le siphon va permettre d'expulser l'eau, et également l'encre et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais cette eau, quand elle est expulsée, ça va leur permettre de pouvoir partir très rapidement. Ils vont utiliser cette expulsion d'eau pour pouvoir se déplacer très, très rapidement. Autre caractéristique, chez la seiche, nous avons le fameux os de seiche à l'intérieur, qui n'est pas un os, mais une coquille, exactement dans la même matière que la coquille d'escargot. Vous en avez peut-être déjà vu, si vous allez à la plage, c'est très commun, notamment en fin d'été. Et sinon, c'est utilisé pour les oiseaux. Chez le poulpe, il n'y a strictement rien. Tout est mou, il y a un peu de cartilage autour du cerveau, mais c'est tout petit. Donc vraiment, on a un animal qui n'a rien de dur à l'intérieur de lui, ce qui fait qu'il peut passer dans n'importe quel trou. Par exemple, Sur cette vidéo, vous allez voir la taille du poulpe à la fin. Là, il sort d'un bateau, il s'est fait pêcher sur un bateau. Il va sortir de cette évacuation d'eau qui est absolument minuscule. On est sur un poulpe, là c'est un poulpe géant du Pacifique. On doit avoir 2 mètres de bras. Et il peut sortir par un trou de cette taille-là. Ce qui fait que vraiment, en laboratoire, c'est notre plus grande difficulté, empêcher les poulpes de s'échapper. Parce que suffit qu'on laisse une évacuation d'eau, par exemple, et ils vont pouvoir s'échapper par là. Donc il faut grillager tous les espaces où ils pourraient s'échapper. Ensuite, au niveau de l'anatomie, autre fait intéressant, c'est qu'ils ont un bec, comme les oiseaux, mais inversé, avec la petite partie en haut. Et derrière ce bec, ils ont une langue toute particulière qui s'appelle la radula. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir un escargot manger, notamment manger du papier, vous avez pu remarquer que ça faisait comme une râpe. Bien, c'est exactement le même appendice. On retrouve vraiment le même principe de râpe avec des petites dents. Et ça va leur servir à râper la nourriture. En fait, ils vont vraiment réduire leur nourriture en tout petits morceaux pour pouvoir le manger. Petite chose qu'ils ont en plus de nous, c'est qu'ils ont 2 cœurs de plus que nous. 3 cœurs, un qui fonctionne comme le nôtre, qui est central, qui fait circuler le sang partout, et 2 petits qui vont être qu'au niveau des branchies pour faire circuler le sang qu'au niveau des branchies. Également, original, ils ont le sang bleu, un bleu assez pâle. C'est en fait parce que leur sang est à base de cuivre et pas de fer. Nous, notre sang est rouge car il est à base de fer oxydé. Eux, c'est du cuivre oxydé, d'où la couleur bleue. Ils ont, comme j'en parlais tout à l'heure, de l'encre. C'est assez connu que l'encre de sèche est utilisée et ça leur sert vraiment pour fuir, pour se cacher. C'est de l'encre à base de mélanine, donc c'est très très noir. À l'intérieur de leur corps, elle est très concentrée. Quand ils vont la relâcher, ils vont recracher de l'eau et du mucus avec, ce qui va faire des véritables nuages. Vous allez le voir sur cette vidéo, là vous avez le poulpe qui s'inquiète et qui, en fuyant, va faire son nuage d'encre. Et ça va être vraiment très très concentré. Là, on voit que ça fait un nuage. Nous, dans nos bacs, on est en captivité, on est sur des plus petits volumes d'eau. Ça, une sèche qui a peur et qui noircit votre bac, c'est vraiment opaque. Vous avez un bac opaque avec une petite sèche à l'intérieur parce qu'elle a eu très peur de nous. Il faut savoir que les sèches, c'est très peureux. C'est pour ça que je les prends en exemple. Dernière chose, qui est peut-être la plus importante, ils ont un cerveau central. Alors la notion de centrale, c'est vraiment ce qui en fait leur particularité. Pour nous, c'est logique. Chez les vertébrés, on a tous un cerveau central, il est dans notre tête, c'est logique. Chez les invertébrés, ce n'est pas du tout habituel. Le cerveau, généralement, il est tout au long du corps, c'est des ganglions vraiment étalés sur le corps. Chez les céphalopodes, ils ont, au fur et à mesure de l'évolution, tout rassemblé en un seul point, qui est au niveau de la tête. Et ils ont même développé en fait, l'équivalent d'un crâne, parce qu'ils ont développé un petit cartilage qui protège ce cerveau. Autre petite particularité, c'est que ce cerveau, il est en anneaux. Là, vous avez le cerveau principal et avec à côté les lobes optiques, donc qui sont une partie du cerveau allouée à la vision. Et donc, ce cerveau en anneau, il est traversé par l'œsophage. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de cette langue qui râpe en tout petits morceaux. Parce que s'ils ne râpaient pas leurs aliments en tout petits morceaux, vous pourriez avoir des aliments qui se coincent dans le cerveau. Ça arrive vraiment, ils ont déjà trouvé des poulpes qui avaient des morceaux de crabe coincés dans le cerveau, tellement l'œsophage passe au milieu du cerveau. Enfin, particularité qui est vraiment la plus impressionnante quand on les observe, ils ont des chromatophores. Les chromatophores, c'est des petites cellules à la surface de la peau qui leur permettent de changer de couleur à volonté. C'est vraiment de toutes sortes de couleurs et très rapide. Vous allez obtenir une palette de couleurs qui est assez phénoménale. Ça leur permet principalement de se camoufler. Vous allez avoir par exemple cette couleur sable qui est très commune pour se camoufler dans le sable. Vous voyez que ça fait un beige et qui vont même pouvoir modifier légèrement la texture de leur peau pour faire cet aspect granuleux. Parce qu'ils ont également des papilles qui leur permettent de modifier la texture de leur peau. On va avoir donc toutes sortes de colorations pour s'adapter à l'environnement, aux algues. Ils peuvent même aller prendre des rayures ou faire des patterns, des colorations beaucoup plus visibles. Donc là, vous avez du noir et du blanc. Ces colorations-là, c'est pour faire peur en fait. Par exemple, vous ne le voyez pas, il est en camouflage, vous vous approchez, vous ne l'avez pas encore opéré, et là, le poulpe, il prend peur, il se dit « Ok, je vais me faire attaquer, et ben, je vais surprendre d'abord avant de m'échapper. » Il va devenir d'un coup noir et blanc, ça fait hésiter, ça surprend, on a l'impression que l'œil est plus gros, et généralement, ça fait ce temps d'hésitation qui est suffisant au poulpe pour pouvoir s'enfuir dans un nuage d'encre. Et comment ça marche, ça pardon, d'abord une petite vidéo, donc un poulpe qui change de couleur, probablement, là, il est en train de dormir, donc on pense qu'il rêve. Vous voyez la vitesse à laquelle ça va, on est en temps réel, et la diversité des couleurs. Là, on est sur un poulpe parfaitement blanc, et après, il va se colorer très sombre maintenant. Et ensuite, il va faire apparaître des papilles. Vous allez voir, la peau, elle devient particulièrement granuleuse. Et ça, on l'observe vraiment constamment. Ils vont toujours s'adapter à leur environnement et pouvoir exprimer à la fois se cacher, mais aussi exprimer des émotions, parce qu'on va avoir des teintes plus ou moins sombres en fonction de leur stress. Des teintes très sombres signifient qu'on va avoir un animal très inquiet. Et donc, une petite sèche, là, qui va, elle, que se camoufler. On est sur, vraiment, vous voyez qu'elle correspond à son environnement. Elle était sur des algues, là, elle passe au-dessus du sol, elle reprend les couleurs du sol, et ensuite, elle se rapproche des algues. Et elle peut moins modifier son corps que le poulpe, mais elle va quand même faire de son mieux. Elle va aussi utiliser ses bras pour imiter son environnement. Vous allez voir, elle va les lever pour imiter au mieux les algues qui vont bientôt apparaître. Voilà. Vous allez avoir voilà, les petits bras qui se lèvent, c'est assez typique, nous on l'observe dans nos bacs, on met quelques algues, donc en fait ça ne les aide pas beaucoup à se camoufler, mais elles vont quand même toujours relever les bras quand elles sont au milieu des algues, parce que quand on les voit de face, eh ben, on a beaucoup plus de mal à distinguer une sèche qui a les bras comme ça relevés, et donc c'est vraiment une méthode de camouflage au milieu des algues. Et donc comment ça marche, c'est cette coloration. En fait c'est tout un système assez complexe de cellules qui sont sur la peau. Ces cellules, les fameux chromatophores, en fait, c'est des cellules qui fonctionnent comme un sphincter, c'est-à-dire que, ou comme votre pupille. Vous allez soit avoir un point très concentré, quand il est contracté, ça fait un point de couleur très concentré, et puis après, il se dilate et il étale la couleur. Donc très concentré, vous avez juste un point et vous voyez le fond blanc. Très dilaté, et bien, vous allez avoir la couleur qui s'étale et vous allez obtenir toutes ces couleurs de brun, de rouge ou de jaune. Mais pour compléter cette palette de couleurs, il faut aussi des bleus ou des violets. Et là, en fait, c'est des cellules qui vont diffracter la lumière, l'orienter différemment pour produire les colorations qui leur manquent, donc le bleu et le violet. Donc vous avez votre fond blanc. Par-dessus, vous allez avoir ces cellules qui modifient la lumière, qui sont bleus et violets. Et ensuite, les cellules rouges, jaunes et marrons. Et avec cette palette-là, en fonction de comment chaque cellule est contractée ou dilatée, comment la lumière est orientée, et bien on obtient toute la palette de couleurs qu'ils peuvent présenter. Autre caractéristique qu'ils ont, c'est la repousse d'organes, qui est assez rapide et qui est très impressionnante. Souvent, c'est sur les bras. Dans la nature, particulièrement les poulpes, ils se font souvent attraper les bras et ils en perdent un morceau. Si on coupe un morceau, en fait, le bras va repousser entièrement. Ça va être vraiment, vous voyez, en 2 mois, vous allez retrouver un bras complètement fonctionnel qui va vraiment faire repousser la peau, les ventouses, les muscles et les nerfs. Donc c'est vraiment très intéressant et c'est particulièrement étudié pour tout ce qui est recherche pour faire repousser des organes chez d'autres êtres vivants. Parce que c'est vraiment très, très impressionnant à voir et ça marche un peu sur n'importe quoi. On suppose, même si ça n'a pas pu être vérifié, qu'il peut faire repousser des yeux. Moi, ce que j'ai observé pour un de mes poulpes, c'est qu'il peut faire repousser une ventouse qui a été arrachée malencontreusement. Il n'y a pas de souci, elle réapparaît quelques semaines plus tard. Une autre particularité qui est assez impressionnante quand on y réfléchit, c'est leur croissance. C'est des animaux, en gros, leur seul objectif de vie, c'est de grandir. Un poulpe commun ou une sèche commune, ça ne vit que 2 ans. Et en 2 ans, on passe d'un petit œuf avec une sèche dedans ou un minuscule œuf avec un poulpe dedans à des adultes qui vont faire chez la sèche facilement 50 cm de long, 3-4 kg. Et chez le poulpe, on est sur des individus qui vont avoir plus d'un mètre de longueur de bras, enfin qui peuvent atteindre 1 mètre de longueur de bras, pareil pour facilement 3-4 kg. Donc on a vraiment une multiplication du poids et de la taille qui est phénoménale. Chez la sèche, le poids par 15 000, la taille par 60. Et chez le poulpe, c'est encore plus, le poids par 30 000 et la taille par 500. Après, les chiffres, ça ne veut pas toujours dire grand-chose. Du coup, moi, ce que je fais, c'est une comparaison. Si on prend un bébé, à la naissance, le bébé humain il fait à peu près 50 cm pour 3,5 kg. S'il avait une croissance de poulpe en 2 ans, ça serait, son poids serait multiplié par 30 000, il ferait le poids d'une baleine bleue. Pour la taille, on ne peut même pas rester dans le règne du vivant. Si on multiplie sa taille par 500, on obtient la taille de la tour Eiffel. On est sur ce niveau de croissance-là. Donc en fait, c'est vraiment phénoménal. Et ils sont obligés, pour cette croissance, de passer leur vie à manger. Vraiment, l'objectif de vie d'un céphalopode, c'est de manger sans être mangé et enfin de se reproduire quand on est assez gros. En parlant de croissance et de se reproduire, à la fin de la vie, c'est la reproduction. Chez les sèches et les poulpes, c'est la même chose. Le moins de contact, le mieux. Donc, c'est des animaux qui s'accouplent très brièvement. Une femelle rencontre un mâle. Accepte de s'accoupler avec lui, il s'entremêle les bras, le mâle donne un sac de spermatozoïdes à la femelle qui se féconde elle-même et qui va aller pondre ses œufs. Que ce soit pour les sèches ou pour les poulpes, c'est la même chose. Même si les poulpes sont souvent encore moins en contact, ils vont vraiment glisser un bras et partir parce que les femelles ont cette fâcheuse tendance à manger les mâles. Après, ils vont pondre des œufs. Chez la sèche, c'est des œufs assez gros, mais elle en pond quand même beaucoup, entre 1000 et 5000. Et chez le poulpe, on est sur des œufs beaucoup plus petits, mais beaucoup plus nombreux. On va être entre 100 000 et 500 000 œufs. Alors, chez la sèche, la femelle, elle pond et elle meurt. Il n'y a aucun soin parental. C'est vraiment, elle va juste laisser ses œufs. Elle va juste, comme protection, les couvrir d'une fine couche d'encre qui va les protéger de la majorité de leurs prédateurs. Et ils vont se développer comme ça pendant 1 à 2 mois pour donner des petites sèches qui vont faire 1 cm à peu près à l'éclosion. Chez le poulpe, la femelle va rester avec ses œufs jusqu'à ce que les œufs éclosent. Donc la femelle va s'occuper des œufs, va les protéger contre les prédateurs, va les nettoyer et les aérer. À la fin, les petits poulpes vont éclore et être emportés par le courant pendant que la mère, elle, va mourir. Donc elle va passer toute cette période-là sans se nourrir. Elle va s'occuper de ses œufs pendant environ 1 mois sans se nourrir. Et elle va mourir pas vraiment due à cette absence de nourriture, mais plus parce que c'est vraiment programmé comme ça. À l'éclosion, les poulpes, ils sont minuscules. Ils font 1 à 2 mm. Et ils ont une phase qu'on appelle larvaire, où ils vont en fait juste faire flotter dans le courant. Il y en a énormément qui vont mourir pendant cette période. Pendant 1 mois, ils vont flotter, se nourrir de tout ce qu'ils trouvent. Et après, ils vont devenir de vrais petits poulpes qui font quelques centimètres. Bon, maintenant que j'ai fini avec l'anatomie et la biologie de l'animal, on va parler un petit peu de leurs particularités. On a tendance à croire que c'est des animaux tellement uniques que c'en est des aliens. J'essaie de vous montrer que non, c'est bien des animaux de chez nous. Alors tout d'abord, il faut savoir que les céphalopodes, aujourd'hui, il y en a beaucoup moins qu'il n'y en avait avant. Les céphalopodes passés, c'était très très varié. On les utilise notamment, ils avaient des coquilles assez importantes et on les utilise pour dater des couches géologiques. C'était vraiment l'animal qu'on retrouvait dans toutes nos mers il y a 300 millions d'années. Et finalement, toute cette variété d'animaux est beaucoup plus réduite aujourd'hui. Aujourd'hui, on a donc tout d'abord l'espèce la plus ancestrale, celle qui a des caractéristiques assez anciennes et qui est la plus simple de tous les céphalopodes, c'est le nautile. C'est un animal vraiment avec un tout petit cerveau. On est sur l'animal qui se rapproche le plus de l'escargot finalement. Et après, on a tous les céphalopodes plus communs. En descendant, vous allez avoir chez les décapodiformes, donc ceux qui ont 10 bras, vous allez avoir les calmars et la famille des sèches. Vous voyez donc que les sèches et les calmars sont assez proches. On le voit au niveau de leur anatomie. Le calmar va avoir une petite nageoire, des bras et des longs tentacules. La sèche aussi a ses bras, des tentacules cachés et des nageoires. On a les sépioles aussi qui sont des cousines des sèches. C'est en fait, ça ressemble vraiment à des minuscules sèches. C'est assez peu connu, mais c'est très fortement étudié parce que certains produisent de la lumière. Et donc, on étudie ça dans certains laboratoires, principalement dans les îles tropicales, ce qui est sympa aussi. Après, du côté des octopodiformes, donc ceux qui ont 8 bras, on va avoir le fameux poulpe, celui qu'on connaît, avec son cousin l'argonaute, qui est en fait un poulpe qui vit dans une petite coquille qui se fait en une sorte de papier. Il la sécrète lui-même. Et on va avoir des poulpes qu'on ne voit que dans les profondeurs, les cirates et les vampires. C'est vraiment que dans les très grandes profondeurs, à plus de 5000 mètres, qu'on va les retrouver. Et donc, on va avoir donc le vampire, qui est appelé vraiment comme ça. Et ça, on les appelle les poulpes Dumbo, généralement. C'est des petits poulpes assez colorés qu'on retrouve dans les grandes profondeurs. Donc, vous voyez qu'on a une diversité, mais finalement, qui est beaucoup plus restreinte que celle passée. Et moi, je vais me concentrer vraiment sur deux genres, les sèches et les poulpes, qui sont finalement assez éloignés. Même s'ils sont dans la même famille, on voit qu'il y a des différences. En parlant d'histoire, il faut savoir que les céphalopodes sont très éloignés de nous d'un point de vue évolutif. En effet, il y a 500 millions d'années, donc avant les vertébrés, on était sur des créatures très très simplifiées. Et ces créatures simplifiées ont donné deux lignées. D'un côté, une lignée qui a développé après l'os, les vertèbres, et qui va donner toute la lignée des vertébrés avec les reptiles, les oiseaux ou les mammifères, dont nous faisons partie. Et de l'autre côté, on va avoir la lignée des invertébrés, ceux qui n'ont pas développé l'os, qui ont plutôt développé des coquilles ou des carapaces. Et dans cette lignée-là, vous allez retrouver tout ce qui est insectes, mais aussi tout ce qui est mollusques. Et dans les mollusques, vous allez avoir les céphalopodes. Mais après, donc, il y a beaucoup de différences et pourtant beaucoup de similarités. C'est le principe de ce qu'on appelle la convergence évolutive. Et en fait, la convergence évolutive, c'est quand vous regardez ces deux images, vous n'avez pas l'impression qu'il y ait beaucoup de différences. D'un côté, vous avez des poissons, des vertébrés, et de l'autre côté, des céphalopodes, là c'est des calmars, des invertébrés. Il y a 500 millions d'années d'évolution entre eux, mais quand on regarde, on voit à peu près la même chose. Je vous la mettrai en noir et blanc, je pense que vous ne verriez même pas la différence. En fait, c'est parce que c'est les mêmes contraintes qui sont appliquées aux deux espèces. Vous avez un milieu aquatique, donc il faut avoir une forme qui est adaptée pour se déplacer dans l'eau. Et vous avez un milieu avec énormément de prédateurs. de protection pour éviter les prédateurs, de gros yeux pour pouvoir les détecter, et la vie en banc, en groupe, parce que si on est en groupe, on a plus de chances de survivre quand un prédateur attaque. Cette convergence évolutive, on l'observe aussi sur des organes en particulier. Ce que je trouve le plus phénoménal, c'est l'œil. L'œil du poulpe est très similaire en forme à l'œil de certains vertébrés. Là, ici, c'est un mouton. Et en fait, il faut savoir que ça n'a jamais été le même œil. À l'origine, l'œil n'existait pas. Sur l'ancêtre commun de ces deux espèces, on n'a pas d'œil. Chaque espèce a développé son œil indépendamment et finalement, on retrouve le même. Au niveau de la formation, on est sur à peu près le même organe. Donc on voit que le même environnement, les mêmes nécessités, le fait de voir et de voir bien, vont développer les mêmes outils. Un œil qui permet de détecter les mouvements, les couleurs. Ensuite, il faut savoir, donc, comme je vous disais, les seiches, c'est des mollusques. Et un autre mollusque qu'on connaît bien, c'est l'escargot. L'escargot, ou la famille des gastéropodes, c'est la famille la plus proche des céphalopodes. Et en fait, quand on compare les deux, on se rend compte que c'est à peu près construit de la même façon. Il y a des petites modifications, mais globalement, on reste sur la même chose. Donc, on a notamment la coquille, qui va être externe chez l'escargot et interne chez la seiche, qui a disparu chez le poulpe, mais on en retrouve chez certaines espèces. Ensuite, sous cette coquille, vous allez avoir ce qu'on appelle le manteau chez les céphalopodes, avec un pied. Le pied chez les céphalopodes, il est complètement transformé. C'est devenu tous les bras, très très complexe. Mais on retrouve la même chose. Derrière, chez les escargots aquatiques, on va aussi avoir des branchies avec une cavité pour faire circuler l'eau, un système digestif qui va traverser le corps de part en part, et puis des ganglions qui vont être au-dessus et en dessous du système digestif. Et ça explique pourquoi le cerveau des céphalopodes, il fait un anneau autour de l'œsophage. Parce qu'en fait, à l'origine, on a des ganglions au-dessus et des ganglions en dessous. Si on les ramène tous au même endroit, eh ben, en fait, en ramenant tout vers l'avant, on forme un anneau. Et ça explique pourquoi le cerveau des céphalopodes et il y a l'œsophage qui passe à travers. Donc, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que les céphalopodes, ça reste des mollusques, mais ils ont vraiment cette capacité exceptionnelle que moi j'étudie, qui est l'intelligence. On est sur des animaux qui ont donc un gros cerveau et qui vont avoir une variété de comportements assez importante. L'intelligence, qu'est-ce que c'est ? Nous, en recherche, on parle de capacité cognitive. Grosso modo, c'est l'intelligence, c'est juste qu'on a des mots compliqués. L'intelligence est définie par des processus par lesquels des informations issues de l'environnement sont perçues, traitées, transformées, retenues, puis utilisées pour prendre des décisions et agir. Donc en fait, il faut vraiment retenir qu'on a des informations, en gros, il faut les voir et les retenir, et après ça va nous permettre d'agir. Bon, c'est tout simple comme ça, mais en fait, c'est quelque chose de très complexe. Et surtout, en fait, c'est une capacité à être flexible, à s'adapter constamment à des situations nouvelles. Si on est très intelligent, si notre environnement change, on va pouvoir apprendre les nouvelles informations de ce nouvel environnement changeant et agir différemment. Et chez les céphalopodes, c'est essentiel parce que leur environnement, il est très, très variable, notamment parce qu'ils ont énormément de prédateurs. Ils se font prédater par à peu près tout parce que, vu qu'ils ont cette croissance exponentielle dont je vous parlais, quand ils sont petits, tout le monde les mange et quand ils sont gros, bah, c'est des animaux plus gros, mais ils sont constamment dévorés. Vous allez avoir, comme vous voyez ici, des oiseaux, des mammifères. Là, on a un requin, donc différents poissons. L'humain en consomme également énormément. Et quand ils sont sur des stades tout petits, ça va être même des crabes ou des crevettes qui vont pouvoir les attaquer. Et pour faire face à ces multiples prédateurs, eh ben, ils ont plein de stratégies différentes. Ça va être très, très varié. Tout d'abord, eh ben, le camouflage dont je vous parlais. Les animaux vont juste essayer de disparaître à la vue des prédateurs pour éviter de se faire manger. Mais bon, ça ne marche pas toujours. Déjà, on laisse des odeurs, on est obligé de se déplacer à un moment ou à un autre et on peut se faire attaquer. Autre méthode, quand on s'est fait détecter, ces colorations dont je vous parlais, noir et blanc, pour vraiment surprendre le prédateur. On va devenir soudainement noir et blanc et donc le prédateur va hésiter un instant, plus savoir exactement ce qu'il attaque et ça va nous permettre de fuir. Le poulpe, lui, en plus, il va utiliser d'autres méthodes. C'est sa capacité à se mettre dans des différents récipients et notamment, pour ce poulpe-là, dans des noix de coco. Ça lui a même donné son nom, il s'appelle le poulpe noix de coco, parce qu'il a la caractéristique de se promener avec des noix de coco tombées dans la mer. On est donc sur des îles tropicales où se trouve ce poulpe. Il va promener ses coquilles et pouvoir se cacher. Dès qu'il y a un prédateur qui arrive, il va se mettre dedans. Autre méthode qui a été observée assez récemment et très peu documentée, c'est cette capacité à se couvrir de cailloux et coquillages en cas de danger. Grâce à leur ventouse, en fait, ils vont coller plein de cailloux et de coquillages sur leur ventouse, sur les bras, s'enrouler dans leurs bras, et ça va permettre de se protéger, de protéger les parties molles. Et enfin, on a aussi une autre technique, principalement utilisée par la sèche, qui est l'ensablement. En fait, elle va se mettre sur une surface, remuer un peu ses nageoires et se faire recouvrir de sable. C'est aussi efficace pour disparaître de la vue des prédateurs. Là, vous allez avoir une petite vidéo qui démontre le côté noir et blanc du poulpe. Je ne pense pas que vous l'aviez vu avant. En fait, il est vraiment super bien camouflé. Et on a beau chercher à voir le poulpe au début, on ne le voit pas, et d'un coup, il apparaît, et c'est ce moment d'hésitation qui fait qu'il va pouvoir s'enfuir. Là, clairement, le plongeur hésite un moment, parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il est en train d'observer, et ça marche très très bien. Il faut savoir qu'en plus de leurs multiples prédateurs, ils ont aussi des multiples proies. C'est des animaux qui mangent un peu tout. Ils sont très opportunistes, ils ne vont pas manger du végétal, mais alors tout ce qui est animal, ça peut passer dans leurs bras. La sèche, elle va se concentrer sur ce qui bouge. Donc des poissons, des crevettes et des crabes. Son truc vraiment préféré, c'est les crevettes. Le poulpe, il va être vraiment très généraliste. Tout ce qui est à base d'un autre animal, on peut le manger. Donc il va aussi manger des coquillages, comme des moules ou des coques. Ça va être très, très varié. Le problème, c'est que quand on mange aussi varié, c'est différent de manger entre la crevette où vous croquez dedans, c'est bon, vous avez accès à la nourriture. Les coques, c'est une autre histoire pour les ouvrir. Et donc, le poulpe a dû adapter ses techniques pour pouvoir en manger. Donc, le poulpe, il a cette caractéristique de manger tous ses coquillages. Et pour faire ça, en fait, il va forer un petit trou dans le coquillage, injecter une toxine qui fait que le coquillage va se détendre et s'ouvrir. Et va pouvoir manger la nourriture. Le truc, c'est qu'il faut injecter la toxine à un endroit très particulier. Vous pouvez voir que là, il y a un tout petit point. C'est vraiment un forage minuscule. C'est vraiment le poulpe qui a foré ce petit trou avec son bec et ensuite qui a injecté la toxine. Elle est injectée précisément dans le muscle qui permet l'ouverture et la fermeture de la coquille. Donc le poulpe, en fait, quand il est jeune, il va prendre des coquillages et il va forer un peu partout. Puis à un moment, ça va réussir. Et il va retenir quel est le forage qui a fonctionné et après l'appliquer à cette espèce. Donc il est capable de retenir quelle espèce, où faut forer pour quelle espèce. C'est vraiment un apprentissage qui est très complexe. Et on voit vraiment entre les jeunes poulpes qui forent à plein d'endroits et les vieux poulpes avec de l'expérience qui ne forent qu'à un endroit qui sont très efficaces. Après, là, je vous parle du forage. Il faut savoir qu'il y a des méthodes beaucoup plus brutales, mais aussi efficaces. Sur des moules, par exemple, les poulpes vont simplement utiliser la force brute, ventouser les deux côtés de la moule et l'ouvrir. Pour la sèche, alors je vais d'abord parler du milieu. Parfois, les crabes qui consomment les sèches et les poulpes portent des anémones urticantes. Ils n'aiment pas ça, les poulpes et les sèches, parce que ça leur pique les bras. Donc ils apprennent soit à éviter les crabes qui portent des anémones, soit à contourner les anémones et attaquer par exemple par derrière pour les crabes qui en portent sur les bras. Et donc ils adaptent vraiment leur technique de chasse en fonction des protections de leur proie. Pour la sèche, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle a deux méthodes pour consommer les deux proies qu'elle préfère, donc les crevettes et les crabes. La crevette, c'est vraiment facile, on craint quasiment rien. Le crabe, ça va encore, mais par contre, il a deux pinces qui font vraiment mal, donc il faut les éviter. Et la technique de la crevette, c'est projeter les tentacules et on attrape la crevette, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est très rapide, très efficace. Il faut savoir qu'elles peuvent orienter leurs tentacules comme elles veulent et c'est vraiment très précis. Et au quart de seconde près, elles peuvent modifier la direction. Pour les crabes, les tentacules, ça ne marche pas trop parce que les crabes ils peuvent s'ancrer dans le sol. On ne peut pas les attirer comme ça. Du coup, pour les crabes, ce qu'elles font, c'est qu'elles les attaquent avec leurs bras et qu'elles les attaquent par derrière. Parce que si elles les attaquent par devant, elles se font pincer. Donc là, sur cette vidéo, vous voyez que la sèche, elle regarde sa proie et elle l'attaque par derrière. Et après, elle va la maintenir, injecter la toxine, la même toxine qu'elle utilise pour les coquillages et que le poulpe utilise pour les coquillages. Et ça va paralyser petit à petit le crabe qu'elle va pouvoir consommer tranquillement. Et maintenant, j'ai envie de vous parler un peu de ce que je fais, moi, du travail en laboratoire. Moi, je ne vais pas du tout dans la mer, je ne plonge pas du tout. En fait, j'ai des animaux en laboratoire et je travaille sur leur intelligence. Et c'est vraiment très particulier de travailler avec les céphalopodes parce que c'est des animaux qu'on attrape sauvages. Dans le cas des sèches, on les élève à partir de l'œuf, mais dans le cas des poulpes, c'est des animaux sauvages. Et on se rend compte, finalement, assez peu de temps, en quelques mois, qu'elles s'habituent à la présence de l'homme et qu'elles commencent à interagir. Et on va avoir vraiment deux personnalités différentes, si on peut dire, entre la sèche et le poulpe. Au niveau de l'espèce, on va voir que la sèche est très craintive et très exigeante. Si elle fait quelque chose et qu'on ne la récompense pas pour cette action qu'on lui a demandée, en lui donnant une crevette par exemple, elle ne va plus jamais la faire parce qu'elle n'était vraiment pas contente. Par contre, si elle est bien récompensée au bon moment, ça va être des super bonnes élèves qui vont apprendre très très vite. Les poulpes, ils sont extrêmement explorateurs et très attirés par la nouveauté. Vous mettez un nouvel objet dans le bac, automatiquement, elles vont y aller dessus. Les sèches vont l'éviter, les poulpes ils vont immédiatement aller l'explorer. Ce qui fait que c'est très facile de les habituer aux humains parce que ben, on est des nouvelles choses pour eux. Donc, dès qu'on met les mains dans le bac, il faut aller nous explorer. Alors, ça pourrait être intéressant. On se dit, ben, un animal qui a l'habitude de l'humain, ça doit être le modèle idéal pour travailler en recherche. Ben, le problème, c'est qu'ils sont tellement curieux et explorateurs que quand on leur propose des expériences où ils doivent résoudre des problèmes, ils se lassent très vite. Donc, c'est assez difficile de leur faire des apprentissages parce qu'ils ont toujours envie d'explorer et ils sont très dissipés. Ils vont se concentrer sur autre chose. Quand les sèches, elles vont regarder exactement ce qu'on leur montre, les poulpes, ils vont aller voir nos mains, ils vont aller voir le voisin, ils vont constamment bouger. Et ça va être parfois compliqué de travailler avec eux. Là, je vais vous montrer une série de vidéos où vous voyez un peu les interactions qu'on peut avoir avec ces animaux. Donc, tout d'abord, là, on a des sèches très jeunes qui sont arrivées peu de temps avant. Et elles viennent chercher, j'ai une crevette dans les doigts, elles ne vont pas hésiter à venir chercher les crevettes dans les doigts après un petit peu d'habituation. Un autre comportement qu'elles vont faire, c'est venir à la surface. Là, en fait, vous avez une sèche qui est vraiment à la surface de l'eau et qui sort ses bras et ses yeux. Et c'est vraiment une interaction. C'est pour attirer l'attention de l'homme. On ne sait pas pourquoi elles le font, mais elles le font toutes quand elles sont habituées. Elles viennent vraiment réclamer de la nourriture. Vous n'avez peut-être pas vu sur la vidéo, mais en fait, à la fin, elle crache un petit peu d'eau. Là, elle est en train d'attirer mon attention. Vu que je ne lui donne rien, voilà. Là, elle a craché de l'eau. Ça, c'est leur haute méthode pour se plaindre, vraiment, et pour nous dire qu'on ne les a pas nourris assez vite et que c'est juste inadmissible. C'est assez terrible parce qu'en ce moment, j'ai des sèches qui sont vraiment habituées à moi et vraiment, c'est en quelques minutes, si je suis en train de travailler avec la sèche d'à côté, ben c'est, on se retrouve mouillé parce que les sèches, alors elles visent très très bien et elles crachent facilement de l'eau pour exprimer leur mécontentement. Chez les poulpes, on a vraiment beaucoup d'interactions. On a déjà ce mouvement qu'on a remarqué, qu'on n'explique pas trop, mais qui était très intéressant. On a vraiment l'impression qu'il fait coucou. Et ce mouvement-là, généralement, c'était quand on arrivait dans l'élevage, les animaux nous voyaient et bougeaient les bras vraiment pour nous attirer l'attention, probablement. Après, c'est des animaux qui vont être très curieux avec l'humain. Non, je ne l'ai pas. Et si on met la main dans le bac, vraiment, là, c'est un jeune poulpe et ça fait pas très longtemps qu'il est dans les bacs, et peut-être un mois. Et vraiment, il vient chercher l'interaction, attraper les mains et après, ils essayent de tirer et de manipuler tout ce qu'on leur donne. Là aussi, sur cette vidéo, le poulpe essaye d'attraper tout simplement la caméra qui le filme parce qu'il ne connaît pas cet objet et donc il va vraiment chercher à sortir les bras de l'eau pour attraper la caméra. Et ça, cette capacité, on va l'utiliser pour les expériences. Notamment, vous avez déjà entendu parler peut-être des poulpes qui ouvrent des pots. Donc si on leur met un pot, là il est opaque, il ne sait même pas ce qu'il y a dedans, il va quand même aller le chercher et ensuite il va arriver à dévisser le bouchon pour explorer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors il faut savoir que même si c'est très souvent utilisé pour illustrer l'intelligence, l'ouverture des pots, ce n'est pas le meilleur exemple. Parce qu'en fait, ils font toujours ça par essai-erreur, ils n'apprennent jamais. Ils tournent dans un sens, ils tournent dans l'autre plusieurs fois et à un moment le pot s'ouvre. Mais même après des dizaines de fois, ils ne comprennent pas qu'il y a un seul sens et qu'il faut toujours tourner dans ce sens. Donc, ce n'est pas le meilleur des exemples, même si c'est intéressant de voir comme ils sont explorateurs. Ça reste juste des animaux qui ont des bras un peu musclés, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'apprentissage derrière. C'est plus de la curiosité et des bras bien adaptés. Donc, il vaut mieux utiliser d'autres méthodes dont je vais vous parler juste après. Dernière petite vidéo pour montrer la curiosité, là, par le laboratoire. C'est un plongeur qui me l'a donné, cette vidéo. Vous voyez un poulpe adulte qui vient capturer la lumière du plongeur. C'est vraiment seulement de la curiosité. On ne peut pas avoir d'autres explications que ça. C'est vraiment un comportement, il ne cherche pas à fuir, il ne montre aucun comportement de peur ou d'agression. Il est juste curieux et il se dit, tiens, ce nouvel objet, je vais l'emporter dans mon abri pour pouvoir l'explorer tranquillement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on étudie quand on a des animaux en laboratoire? Il y a tout un panel de choses qui est étudié et beaucoup sur la sèche, parce que c'est un animal assez facile à garder en captivité, contrairement aux poules, comme je vous disais, qui s'échappent. Et qui a besoin d'un bac tout seul, etc. C'est vraiment des animaux, la sèche est vraiment plus simple à conserver, c'est un peu comme un poisson, on la met en eau de mer et ça va. Les premières études se sont concentrées principalement sur des jeunes sèches, parce que c'est facile de se fournir en eux. Et on a ainsi découvert que les jeunes sèches, les très jeunes sèches, les sèches dans leur œuf, étaient déjà capables d'apprentissage. Si vous prenez des sèches en fin de développement, donc qui sont dans l'œuf, mais qui ont déjà tous les organes finis, les yeux notamment, et les récepteurs aux odeurs, on va pouvoir leur apprendre à se méfier de certains prédateurs et à être attiré par certaines proies. Pour ça, on a montré qu'en fait, si dans le bac où il y a les œufs, on expose les sèches à une odeur de prédateur qu'elles connaissent déjà, qui est innée, donc c'est notamment des prédateurs comme des petits requins, on met de l'odeur de petits requins, les sèches dans l'œuf, elles savent de façon innée que c'est dangereux. Donc elles vont se mettre à respirer vite, elles savent déjà qu'il faut fuir. Si on couple cette odeur à une odeur complètement inconnue, de l'huile essentielle de lavande, et ben elles vont associer ça, et à l'éclosion, quand on met une goutte d'huile essentielle de lavande, elles vont fuir comme s'il y avait un requin qui allait arriver. Donc elles ont pu déjà associer dans l'œuf que cette odeur de prédateur associée à la lavande voulait dire qu'il y avait le prédateur qui arrivait. Au niveau des proies, c'est aussi essentiel parce que dès qu'elles sortent de l'œuf, il faut qu'elles sachent se nourrir. Si on leur montre visuellement seulement des crabes avant la naissance, elles vont voir que dans l'environnement, il n'y a que des crabes. Et dès l'œuf, elles vont sortir attaquer des crabes. Si on ne leur montre rien dans l'œuf, elles vont préférer les crevettes parce que c'est vraiment l'aliment qu'elles préfèrent, qui est plus simple à attraper. Mais le crabe, s'il n'y a que ça dans l'environnement, elles vont le favoriser. De même que si on leur présente que des crabes blancs, elles vont favoriser l'attaque sur des crabes blancs plutôt que des crabes noirs. Donc elles ont déjà un système visuel assez performant pour détecter ça et un cerveau suffisamment développé pour apprendre ce genre de petits apprentissages essentiels à la survie. Et en fait, cette mémoire et cette capacité d'apprentissage va durer toute la vie. Les 2 ans de vie jusqu'à la mort, elles vont avoir une excellente mémoire. Notamment, même les derniers jours avant de mourir, elles ont la même mémoire que lorsqu'elles sont jeunes. Chez l'humain, chez beaucoup de mammifères, on a une dégradation de la mémoire avec l'âge. On a un développement lent de la mémoire. Chez les petits-enfants, on a une mémoire très, très limitée qui se développe avec l'âge, qui atteint un pic autour de 20-30 ans et qui rediminue. Chez la sèche, c'est un plateau. À partir du moment où ils sont devenus des jeunes sèches d'environ 3 mois, elles vont garder leur capacité cognitive, donc leur cerveau de qualité, jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'au tout dernier jour, elles vont pouvoir vraiment résoudre des problèmes. Probablement parce qu'elles se reproduisent jusqu'à leur dernier jour. Quand elles meurent, c'est vraiment, il n'y a plus rien à faire et elles meurent en 2-3 jours. C'est très, très brutal. Au niveau des capacités qu'on a pu étudier en laboratoire sur des animaux donc un peu plus grands, hors de l'œuf cette fois, on a la généralisation, capacité essentielle. On apprend quelque chose sur un objet. Par exemple, je vais pouvoir apprendre à m'asseoir sur cette chaise, mais je sais qu'après, si je vais sur ce fauteuil, ça sera le même processus. C'est essentiel et ça marche très bien chez les céphalopodes. Par exemple, on leur apprend à attaquer une balle noire. Si tu vas sur la balle noire, si tu la touches, tu as une crevette ou un crabe en échange. Et ils apprennent ça, sèche et poulpe. Et après, si on leur présente une balle d'une autre couleur, d'une autre forme, d'une autre taille, elles vont y aller quand même. Elles ont appris que c'est la notion de balle qui était importante. Donc en fait, à partir du moment où on me présente une balle, il faut que j'aille l'approcher et en échange, j'aurai des crevettes. Mais après, elles peuvent aller plus loin parce que des fois, la balle ne va pas être récompensée. C'est la discrimination conditionnelle. On rajoute le fait qu'il y a des conditions. Des fois, la balle, elle donne des choses et des fois, elle n'en donne pas. Notamment, s'il y a des bulles dans l'aquarium, il faut aller sur la balle parce que je vais avoir une crevette. Par contre, si dans l'aquarium, on a enlevé les bulleurs et que tout est calme, ça ne sert à rien d'aller sur la balle parce qu'on ne va avoir rien en échange ou pire, on va même se prendre un petit choc, une petite tape sur les bras et donc ça fait mal. Et comme ça, ça leur permet vraiment d'apprendre que, comme je vous disais, sur le crabe, c'est super d'attaquer un crabe, sauf s'il y a des anémones dessus, parce que ça pique. Donc, c'est ces conditions-là qui sont essentielles dans leur vie pour se protéger des prédateurs ou trouver des proies. Autre caractéristique, c'est l'apprentissage social. Alors, il faut savoir, j'en ai pas particulièrement parlé avant, que les céphalopodes, c'est globalement des animaux très solitaires. À part les calmars qui vivent en banc, les sèches se tolèrent, elles vivent en petits groupes, mais il n'y a pas vraiment d'interaction. Et les poulpes, c'est des purs solitaires. En laboratoire, on ne peut pas les élever ensemble parce qu'ils s'entretuent. Dans la nature, ils ne s'entretuent pas, mais ils s'évitent, sauf au moment de la reproduction. Et pourtant, ils ont un apprentissage social. Ils peuvent imiter leurs congénères. Et on le voit très, très bien en laboratoire, chez le poulpe notamment. Si vous mettez 2 poulpes, l'un en face de l'autre, dans un bac en verre, le premier poulpe, il sait que, justement, quand il attaque la balle rouge, il a quelque chose à manger, et la balle blanche, il n'a rien. Et bien, l'autre poulpe en face, quand il va voir ça, il va spontanément attaquer la balle rouge plutôt que la balle blanche. Il va pouvoir imiter son congénère. Chez la sèche, encore plus impressionnant, c'est que ça démarre très très tôt. Bon, je vous parlais de l'apprentissage dans l'œuf. Là, c'est la première semaine après l'éclosion. Si une petite sèche voit une autre sèche faire un comportement, notamment éviter d'attaquer une crevette qui est dans un tube en verre, parce que justement, il y a le tube en verre qui l'empêche d'attaquer la crevette, la sèche va faire la même chose. Ok, quand je vois un tube en verre, je n'attaque pas, parce que de toute façon, je ne pourrais pas attraper la crevette. Et enfin, il faut savoir qu'il va y avoir de la coopération avec d'autres espèces. On l'a observé assez récemment, mais ça existe probablement depuis des millions d'années, mais on ne l'observait pas, de la coopération entre le poulpe avec d'autres poissons. Le poulpe chasse, et en fait, les débris de nourriture qu'il va laisser derrière lui vont être consommés par les autres poissons. La coopération intervient dans le fait que les poissons, après, vont apprendre à indiquer au poulpe où aller chasser, où sont les proies qu'ils pourraient consommer. Et ils indiquent, le poulpe récupère la nourriture et en laisse en tant que déchet aux poissons. Il faut savoir quand même que le poulpe n'est pas le meilleur des coopérateurs parce que si un poisson lui montre un endroit et qu'il n'y avait rien, ou si un poisson qui n'avait rien montré vient chipper des restes, il va être capable de faire une rétribution. Et en fait, on parle de coup de poing. Il donne un coup avec son bras au poisson. En laboratoire, une autre capacité qu'on étudie, qui est absolument essentielle et d'une importance qu'on n'imagine pas, mais ça reste très impressionnant, c'est l'inhibition. Le fait de s'empêcher de faire une action, même si on en a envie. C'est absolument central dans tous les apprentissages. Parce que si j'apprends à me retenir de faire une action, je peux attendre de voir ce qui va se passer si je ne la fais pas, et donc vraiment apprendre que je peux avoir une meilleure récompense en attendant. Chez la sèche, c'est très efficace et très impressionnant. Vous lui mettez une crevette disponible dans un bac qui est ouvert, et dans l'autre bac, vous mettez deux crevettes, donc une meilleure récompense, il y en a deux. Mais cette boîte, elle est fermée pendant, au début, quelques secondes et de plus en plus longtemps. Et bien, la sèche, elle va rester face aux boîtes et attendre que la boîte s'ouvre pour obtenir les deux crevettes. Et on observe, un peu comme les enfants ou d'autres animaux, des comportements pour éviter la tentation. Elles vont notamment regarder ailleurs pour éviter de voir ces crevettes qui leur donnent envie. C'est la même chose avec des enfants. C'est un test qui a été fait à l'origine pour les enfants. On leur met un chamallow devant eux et on leur dit, si tu ne touches pas au chamallow, tu en auras plus après. Et les enfants vont avoir ces comportements où ils vont regarder ailleurs ou jouer avec leurs mains pour éviter d'être attirés. Et moi, mon sujet de thèse, c'est plus concentré sur tout ce qui est capacité cognitive complexe et notamment la mémoire complexe. Cette mémoire, c'est tout ce qui est mémoire des événements avec beaucoup de composants. Et on parle notamment de mémoire de type épisodique, c'est la mémoire, votre mémoire de vos souvenirs passés. Tout ce que vous avez vécu dans votre passé, en fait, chaque souvenir, on va pouvoir les définir par différents composants. Le quoi, le contenu du souvenir, où c'était, quand c'était, et après, il va y avoir tout un contexte complexe. Donc, par exemple, vous pouvez dire, je suis allée au restaurant ce midi, et c'était à tel endroit, il y avait tel plat à manger, ça sentait bon, c'était agréable. Vous allez avoir tout cet ensemble-là qui forme le souvenir. Et ça, on essaye de l'étudier chez l'animal, mais on est vite coincé parce que là, on est sur des souvenirs où on les raconte généralement. Donc là, il faut aller les étudier avec d'autres façons. Et donc, on va simplifier le souvenir à son essentiel, c'est-à-dire le quoi ou quand. Donc, on va lui demander qu'est-ce que tu as mangé, à quel endroit et quand, pour pouvoir voir si les sèches ou les poulpes ont cette capacité. Première étape, on leur apprend d'abord à nous montrer quelle est leur proie qu'elles préfèrent. Donc par exemple, pour une sèche, on va lui proposer un crabe et une crevette dans deux pots. Et ensuite, on va cacher ces pots, puis on va lui dire où était ta proie préférée, donc où était la crevette. Et là, vous allez avoir cette vidéo-là, où vous avez la sèche qui, donc là-haut, il y a du crabe, là, il y a de la crevette, les pots sont cachés. Et l'animal va se diriger vers le pot, indiquer celui qui l'intéresse, là, en touchant avec les bras. Et comme ça, elle me dit, c'est ici qu'il y a la crevette, c'est ça que je veux. Et là, je vais la récompenser avec une crevette. Et après, on veut quand même savoir si elle est capable de se souvenir aussi du quand. C'est la complexité de cette étude. Donc, on a fait cette étude avec les sèches il y a pas mal d'années. Du coup, ce n'est pas moi qui ai fait cette étude-là. Mais avec les poulpes, on l'a fait récemment pour voir s'ils possédaient cette mémoire. Donc, pour ça, on prend un poulpe et on met deux pots dans son bac. Ces pots, ils sont opaques. On ne voit pas à l'intérieur. Ils sont à deux lieux bien distincts. Ici, en haut et en bas. À l'intérieur, il y a deux proies. Donc le poulpe, on lui met les deux pots. C'est un jour comme ça. Après. Donc il y a eu de l'entraînement avant. Mais un jour, on lui met ses deux pots à deux endroits qu'il ne connaît pas, dans son bac. Et il va voir les deux pots. Il mange d'abord le crabe, puis la crevette. Le poulpe, c'est l'inverse de la sèche. Sa proie préférée, c'est le crabe. Ce qu'il va toujours chercher, c'est le crabe. Et après, on enlève les pots et on attend. On attend soit une heure, soit trois heures. C'est le fameux quand. Si on attend une heure, eh ben, le crabe il n'est pas revenu. C'est-à-dire qu'on va remettre un pot, mais là-dedans, il n'y aura rien. Par contre, la crevette, elle est là. Donc le poulpe, il va devoir retenir que si j'ai attendu une heure, eh ben, il faut que j'aille chercher dans le pot où je trouvais la crevette. Donc il va devoir se souvenir, bon, le camp, c'était il y a une heure, et l'endroit, c'était en bas, qui va y avoir la proie qui est présente. Ne pas aller en haut parce que le crabe est absent. Par contre, s'il attend plus longtemps, un délai long de 3 heures, là, les deux proies sont disponibles. Donc, la meilleure récompense, c'est d'obtenir un crabe, parce que c'est ce qu'il préfère. Et donc, il va retenir que s'il a attendu longtemps, eh ben, il faut qu'il aille à l'endroit où il y avait la proie qu'il préférait, l'endroit où il y avait le crabe. Ça reste une expérience assez difficile à expliquer, mais finalement, dans la nature, c'est assez logique. Prenons par exemple une sèche, elle va aller à un endroit, c'est plein de crabes. Elle va consommer tous ces crabes, et puis elle va partir. Si elle revient 30 minutes plus tard, ben les crabes ne seront pas revenus. Donc il faut bien qu'elle retienne qu'à tel endroit, il y avait des crabes, je les ai tous mangés, il ne faut pas que j'y retourne tout de suite. Par contre, si j'y reviens deux jours plus tard, vu que c'est un milieu qui favorisait les crabes, il y a des chances qu'il y en ait. Et donc, je retiens qu'à cet endroit, il y a des crabes, mais qu'il ne faut pas y aller trop souvent. et donc il faut y aller par exemple après 2 jours. Chez les poules, alors chez les sèches, cette manip elle marche super bien. Les sèches sont hyper douées. Elles apprennent très très vite et elles s'en sortent très très bien. Les poulpes, c'est une autre histoire. Ils mettent très très longtemps à comprendre l'expérience et c'est là où je vous disais qu'ils sont très dissipés. En fait, généralement, ils vont se lasser et aller faire autre chose. Et puis, bon, c'est pas grave, hein, si on a une crevette de temps en temps au lieu d'un crabe, eux, ça les embête pas. Donc, les poulpes y arrivent, mais c'est très long et très compliqué de leur apprendre. Peut-être qu'eux, ils ont moins besoin de cette mémoire parce que dans leur environnement, ils explorent un peu au hasard, ils trouvent ce qu'ils ont à manger un peu au hasard et donc finalement, c'est moins utile pour eux. Autre élément qu'on a étudié chez la sèche sur la mémoire, c'est la source. Donc, je vous parlais du contexte qu'on appelle source. C'est tous ces autres éléments que le quoi, le quand et le où. Et notamment, ça peut être comment vous avez perçu cet événement, si vous l'avez vu ou si vous en avez entendu parler. Chez la sèche n'a pas d'audition, donc on ne peut pas utiliser ça. Ce qu'on utilise, c'est les odeurs et le visuel. Et on demande à la sèche, est-ce que tu as vu la proie ou est-ce que tu as senti la proie ? Au début, l'entraînement, c'est juste, par exemple, une crevette dans un pot, donc elle ne la sent pas, et 3 balises. Ces balises, donc c'est des carrés. Quand la sèche voit la crevette, il va y avoir une récompense si elle va ici, par contre, pas là, ni là. Quand elle sent une crevette, elle aura une récompense si elle va ici, mais pas là et pas là. Donc, elle apprend que je vois, je vais à tel endroit, je sens, je vais à tel endroit. Et puis, un jour, on lui présente quelque chose de visible ou quelque chose juste qui se sent, mais on ne lui présente pas les balises. Et puis on la fait attendre 3 heures et on lui apporte les balises, comme ça, sans rien, il n'y a plus rien autour. Et bien spontanément, la sèche, elle va se diriger. Si c'était visible il y a 3 heures, elle va aller là. Si elle avait senti, elle va aller là. Elle est capable de nous dire que oui, il y a 3 heures, le souvenir que j'ai créé, c'était soit olfactif, soit visuel. Et tout ça, ça va leur permettre, avec cette mémoire, de pouvoir planifier leur futur. L'anticipation, c'est vraiment assez complexe à étudier chez l'animal et très controversé. Parce qu'on ne sait jamais si vraiment il planifie pour plus tard ou si c'est ancré, automatique, inné. Vous prenez l'hibernation, des animaux qui n'ont jamais connu l'hiver, ils vont hiberner. Donc, ils ne planifient pas vraiment leur futur. Ils savent juste qu'il faut à un moment faire des réserves pour aller dormir. C'est inné. Chez la sèche, on suppose qu'il n'y a rien d'inné parce qu'elles ont vraiment des comportements d'apprentissage orientés vers le futur. Prenons cette situation où tous les matins, elles ont des crabes. Et puis, un jour sur deux, le lundi, le mercredi et le vendredi, elles ont des crevettes. Elles adorent les crevettes. Les crabes, c'est sympa, mais un peu moins. Les lundis, les mercredis et les vendredis, si elles mangent le crabe, elles ne vont plus avoir faim pour les crevettes. C'est vraiment comme si vous mangez un gros repas et qu'après, vous apprenez qu'il y a un super bon dessert, mais vous n'avez plus la place. Et bien, ce qu'elles vont faire, c'est qu'un jour sur deux, elles ne vont pas manger les crabes. Les crabes vont se promener pendant toute la journée dans leur bac et plutôt que d'aller les manger, elles vont attendre toute la journée pour avoir les crevettes le soir. Elles vont vraiment apprendre à éviter de manger le crabe pour avoir la crevette. C'est vraiment un comportement qu'elles orientent vers le futur en se disant « je sais que plus tard il y aura une crevette, donc je vais me réfréner de manger ce crabe ». Et ça, on l'a appliqué même plus loin parce qu'on a voulu voir si les sèches étaient capables d'anticiper un besoin futur de nourriture. Imaginez, vous êtes chez vous, bien installé confortablement, vous venez de manger votre repas, vous n'avez pas du tout faim. Le truc, c'est qu'on est samedi soir et que demain, dimanche, vous savez que les magasins sont fermés. Et là, ce que vous réalisez, c'est que votre frigo est entièrement vide. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez faire les courses. Alors, vous n'avez pas faim parce que vous savez qu'il faut remplir votre frigo pour le lendemain pour pouvoir manger. On s'est posé la même question avec les sèches. Est-ce qu'elles étaient capables d'avoir ce raisonnement-là ? Pour ça, en fait, on les met dans ce qu'on appelle un labyrinthe. Donc, c'est un pauvre Y, mais on appelle ça un labyrinthe. Ce qui lui permet de faire 2 choix. Soit un côté où il y a de la nourriture et l'autre côté où il y a un abri. Le truc, c'est que côté nourriture, il n'y a pas d'abri. Et côté abri, il n'y a pas de nourriture. Ça nous permet de voir qu'est-ce qu'elle va choisir. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à satiété. On va lui donner plein de crevettes. Donc là, notre sèche, elle a le ventre plein. Son besoin actuel, c'est un abri, pas du tout de la nourriture. Et logiquement, au moment du choix, elle va à l'abri. Sauf qu'en choisissant l'abri, on la ferme dedans pendant 24 heures. 24 heures, c'est long, elle a vraiment faim et elle se rend compte que voilà, dans l'abri, il n'y avait pas à manger. Le lendemain, on refait la même chose, on la renourrit à satiété. Et là, on lui repropose le même choix. Et là, on a à peu près 50% des sèches adultes, les vieilles là, qui ont vraiment besoin de beaucoup manger avant de se reproduire, qui vont se diriger vers la nourriture pour passer les prochaines 24 heures avec de la nourriture plutôt qu'aller à l'abri. Ce qui est étonnant, c'est que c'est des sèches qui actuellement n'ont pas du tout besoin de manger. Elles sont rassasiées et elles ont besoin d'un abri. Mais elles savent qu'elles vont avoir faim plus tard et donc elles vont se diriger vers la nourriture pour pouvoir manger plus tard. C'est une capacité assez complexe et qu'on trouve très intéressante. Par contre, on l'observe chez des adultes, mais beaucoup moins chez les jeunes. Il semblerait que les jeunes soient plus motivés par les abris ou peut-être trop exposés aux prédateurs. Finalement, les jeunes ont peut-être la capacité à anticiper ce besoin futur de nourriture, mais entre avoir la nourriture dans 24 heures, pendant 24 heures ou se faire manger par un prédateur, c'est pas un choix, c'est plutôt si vous avez la nourriture pendant 24 heures, vous allez vous faire manger par un prédateur, vaut mieux se cacher parce que la survie c'est essentiel. Et donc, ce qu'on observe chez les adultes, on l'observe pas chez les jeunes. Petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne en réalité. Là, vous avez un Y avec un bel adulte, c'est un mâle, et là où vous aviez la nourriture qu'il a évité, et hop, il va aller se cacher dans l'abri. Vous voyez que le choix est rapide, mais assez réfléchi. Vraiment, il regarde des deux côtés, et ensuite, il se dirige pour s'installer dans son abri. Donc, vous voyez que c'est très, très varié tout ce qu'on peut faire avec les sèches. On a vraiment des mémoires très, très différentes, et sur des animaux qui vont donc pouvoir faire des preuves d'une intelligence vraiment complexe. Et donc, c'est sur ça que je termine cette présentation. Vous avez, j'espère, pu comprendre qu'il se passe beaucoup de choses dans la tête des céphalopodes.
Merci beaucoup. C'était passionnant de découvrir tout ça et notamment peut-être de relativiser sur un certain nombre de choses qu'on entend sur les poulpes, notamment leur capacité d'apprentissage qui serait, qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas cette forme d'intelligence, évidemment, mais en tout cas, qu'ils ne retiennent pas ce qu'ils apprennent. Est-ce que vous avez des questions ici dans la salle ?
Non, c'est plus une remarque. Cette année, au festival de Ménigout, au festival animalier, il y a eu un film absolument impressionnant, justement, sur la vie des poulpes, des sèches et des calmars en mer, où vraiment, on les voyait dans leur milieu. C'était impressionnant, cette intelligence, en fait, capable de se cacher dans une boîte de conserve qu'ils ont trouvée dans la mer pour pouvoir attraper leurs prédateurs. Ils font feu de tout bois, en fait, et avec une adaptabilité vraiment impressionnante. Et ce qui était bizarre, c'est que dans ce festival, il y avait beaucoup de films sur d'autres animaux qui sont tous, enfin pour beaucoup, en voie de disparition. Et ce film, à côté, c'était plutôt l'inverse, quoi. C'est plutôt un animal qui semble s'adapter, peut-être même pouvoir s'adapter plus au changement climatique ou à beaucoup de choses. Enfin, c'est la question que je me posais, en fait.
Mais vous avez tout à fait raison. En effet, on pense que c'est des animaux qui vont pouvoir s'adapter très bien au changement anthropique. Là, vous parlez des déchets. C'est marrant parce qu'il y a un article scientifique qui est sorti cette semaine sur l'utilisation des déchets par les poulpes comme abri. Donc, c'est vraiment quelque chose de... On le retrouve dans le monde entier et c'est très, très commun. En même temps, moi, mes poulpes, j'utilisais soit des pots en terre, soit des tubes en plastique pour qu'ils se cachent dedans. Donc, j'ai bien pu voir qu'ils utilisent vraiment n'importe quoi pour se cacher. Et au niveau de l'adaptabilité, en effet, au niveau des températures, ils n'hésitent pas à se déplacer s'ils ont un peu trop chaud ou un peu trop froid. Certains migrent un petit peu. Les sèches, notamment en Normandie, quand l'hiver arrive, elles vont migrer pour éviter le froid. Et on remarque à l'échelle mondiale qu'on a un déplacement des populations qui se déplacent en fonction de la température d'eau qu'ils recherchent, parce qu'en fonction des espèces, ils n'ont pas les mêmes températures. Après, par exemple, pour le poulpe commun, on est sur un animal qui a une adaptabilité assez phénoménale. On en retrouve dans les eaux tropicales comme dans les eaux très froides de l'Atlantique. Mais en effet, c'est vraiment un animal, je pense, qui va tolérer assez bien les changements climatiques. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est l'impact du CO2. On a une augmentation du CO2 dans l'eau. Et il faut savoir que les céphalopodes, c'est sensible à certaines choses, notamment certains polluants. Par exemple, le métal, le cuivre, c'est ultra mortel chez eux. Des quantités infimes vont les tuer. Donc potentiellement, le CO2 aura peut-être un impact. Mais on sait qu'on a une adaptabilité, notamment chez la sèche. Vraiment en France, ce qu'on voit, c'est en Méditerranée, dans des eaux chaudes, les sèches